Madame Julien, aujourd'hui, Monsieur Julien va continuer à nous décrire la vie à Saint-Antonin au lendemain du siège de 1622. Et quelle musique avez-vous choisie pour cette émission ?
Eh bien, c'est une époque au cours de laquelle la main royale va s'appesantir sur notre ville. Et les lendemains de défaite ne sont jamais gais pour les vaincus. J'ai choisi tout de même de la musique de danse, parce qu'elle est rigoureusement contemporaine, étant écrite par le roi lui-même. Il faut bien occuper les courtisans, ne serait-ce que pour les empêcher de nuire. Cette lamentable page de notre histoire sera donc illustrée, à contrario, par la musique frivole et gracieuse du ballet de la Meurlaison, composé par Louis XIII, roi de France.
Monsieur Julien, après le siège de 1622, les consuls protestants sont maintenus en place pour administrer une ville ruinée, d'où il faut extraire la somme énorme de 100 000 livres pour s'acquitter de l'amende infligée par Louis XIII. On a l'impression que si les consuls protestants sont maintenus en place, on leur a retiré beaucoup de leur pouvoir, en leur laissant seulement les tâches ingrates, difficiles, peut-être impossibles.
Voilà. Le règlement de l'énorme rançon imposée par Louis XIII n'a pas été la seule des difficultés engendrées par la reddition du 24 juin 1622 qu'ont eu à résoudre les consuls de Saint-Antonin. La longue campagne militaire de Louis XIII, commencée en 1621, achevée en 1629 avec le concours de Richelieu par l'édit de grâce d'Alès, avait un but bien précis, soumettre les protestants définitivement au pouvoir royal, en rendant impossible toute velléité de reprise d'indépendance. Pour cela, et dès la reddition de notre ville, le roi ordonne, comme première mesure, la démolition des fortifications. Ces fortifications considérables, édifiées au cours des 60 années de guerre de religion, qui faisaient à notre cité comme un corset de pierre. Ainsi que vous pouvez le voir sur le croquis publié dans notre bulletin 1982, le bulletin des Amis du Vieux Saint-Antonin.
Et ces fortifications, c'était à l'époque la seule méthode efficace de protection de la ville.
Oui.
Et ce devait être affreux pour les Saint-Antoninois de se trouver tout d'un coup à la merci de n'importe quel ennemi éventuel.
Et oui, on peut dire que c'est comme une tortue qui aurait perdu sa carapace. Parce que là, maintenant, ils sont complètement... La ville est ouverte. Elle est à la merci de n'importe qui. Il n'est pas question d'opposer une résistance quelconque. Il n'y a plus de point fort où l'on puisse se retrancher et d'où on puisse menacer l'assaillant. Alors, on comprend que les consuls n'aient guère envie de démolir ces ouvrages qui ont coûté si cher et dont ils sentent bien que la disparition est la fin de leur possibilité de pouvoir. Alors, ils vont essayer de tergiverser. Vous savez bien comment on fait toujours. Mais mal leur en prend. Le sieur de Haupoule, conseiller au Parlement de Toulouse et commissaire délégué par le roi à la démolition des fortifications, s'installe à Saint-Antonin même dès le mois de juillet, dès le début juillet 1622. Et devant la carence des consuls, il engage d'autorité le maître maçon Courtette, le même, le pauvre, qui en avril 1622 et début mai 1622 avait lui-même renforcé les remparts en 15 jours. Voyez, en 15 jours seulement, mais avec 152 livres de poudre, vous rendez compte, 75 kilos de poudre, la citadelle est démantelée. Bastion et tour des portes, ravelin, cornes sont abattus et les matériaux jetés en vague dans les fossés. Précisons tout de suite qu'il subsiste les murailles. Hein, quand on démantèle une ville, c'est tout ce qui est point fort, créneaux, bastion, comme je l'ai dit, hein, mais les murailles restent. Il faut bien le comprendre.
Et ça. Le roi ordonne dans cette démolition des fortifications. Est-ce qu'en échange, il offre une protection aux Saint-Antoninois?
Ah oui, nous le verrons d'ailleurs à l'occasion. Et d'abord, la protection, elle est immédiate. C'est l'occupation militaire par des régiments en permanence. Mais aussi, en même temps qu'on démolit les fortifications, on va construire, édifier et renforcer un point fort qui existait dans la ligne des fortifications de Saint-Antonin, juste à cette corne de la Bonnette, là, à l'entrée actuelle de la résidence de l'abbaye. Là s'élevait une tour qui avait été édifiée justement en 1621 et que le roi va faire renforcer. Ce sera une véritable forteresse qu'on appellera le réduit. Et les gens d'aujourd'hui, ils le rédiquent. Ils se trompent. C'est le réduit. C'était une tour. Et là-dedans, même, pouvait y tenir une garnison de 15 soldats à l'intérieur. C'était donc pas quelque chose de tout petit, hein. Alors donc, ces fortifications sont démolies. En même temps, on fait ça. Mais le sieur de Haupoul, pour la démolition des fortifications, pour la construction et la fortification du réduit, il présente les factures au consul. Et assorti d'amendes, parce que ces pauvres consuls, ils n'ont pas d'argent, il faudrait qu'ils payent immédiatement. Allez, ils ne paient pas, ils leur infligent des amendes. Et j'ai là une série de 6 amendes, en plus des paiements de factures infligés par le sieur de Haupoul, pour manque de célérité de la part des consuls. Et même, ils se disposent maintenant à faire sauter les tours du pont. Alors c'est le désarroi, c'est l'affolement, parce que s'il fait sauter les tours du pont à la poudre, c'est tout le pont lui-même, ce beau pont, comparable au pont Valentré. Songez que c'est quelque chose de merveilleux, un pont à Saint-Antonin. Il n'y a pas d'autre pont sur l'Aveyron jusqu'à Najac. Et le prochain pont en aval est à Loubéjac, dont nous sommes fiers de notre pont. Alors vite, on envoie des délégués auprès de Thémines, et heureusement, grâce aux interventions de Thémines, on évitera de justesse cette destruction. Mais il faudra remercier Monsieur de Thémines. Il faudra remercier Monsieur de Haupoul de sa bonne grâce et bienveillance et compréhension. Et c'est Thémines lui-même qui nous dit qu'on pourrait lui faire un petit présent. Et ce petit présent, vous voyez, on lui offre 735 livres. C'est-à-dire la valeur de 20 paires de bœufs ou de 20 chevaux. C'est un drôle de pourboire, n'est-ce pas? Alors, dès le début d'août 1622, la citadelle de Saint-Antonin est détruite. Triste spectacle. Et l'on doit lever, bien sûr, parce qu'on n'a pas d'argent, une nouvelle imposition sur les habitants de cette ville appauvrie. Et alors là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que nous avons le livre, qu'on appelle le livre de la cotise, sur cette imposition qui a été faite. Et elle nous donne le nom de tous les habitants de Saint-Antonin à cette date-là. Et alors, pour vous, je les ai comptés. Je les ai comptés. Évidemment, on ne donne que le chef de famille, mais toujours en appliquant le coefficient dont j'ai déjà parlé, j'arrive à trouver qu'au mois d'août 1622, il y avait dans la ville de Saint-Antonin 2500 habitants.
Oui, c'est assez étrange, parce qu'avant il y en avait beaucoup plus.
Eh oui.
Comment on peut expliquer cette diminution?
Ah bien, elle est facile à expliquer. Il y a eu les morts du siège, et surtout, il y a eu l'émigration déjà de ceux qui, redoutant les sévices des soldats, redoutant les mesures qu'ils s'attendent à voir prendre par le roi, redoutant de perdre leur religion, sont partis. Par exemple, le trésorier lui-même de la commune, le sieur Barthélemy Bournazel, qui détenait les fonds, il a laissé la caisse, mais il est parti. Et il est parti à Millars, où il est mort au mois d'août, le pauvre, sans doute de chagrin ou de blessure. soumettre les protestants, c'est aussi leur faire sentir le poids de la puissance royale. Et dès lors, et pendant des années, seront mis ici en garnison des régiments en permanence, comme celui de Sainte-Croix, celui du comte de Mailles en particulier. Ce sont ceux que l'on verra le plus souvent, dont les soldats auront le comportement bien connu des militaires en territoire occupé. Et alors on enverra messagers et députés auprès du maréchal de Thémines, auprès du duc d'Épernon, auprès du prince de Condé, solliciter la faveur du délogement des compagnies. Tous les procès-verbaux de délibération du conseil de ville sont remplis de ces requêtes. Demander le délogement des compagnies. Ou à tout le moins, si on ne peut pas les déloger, faire cesser les desportements des soldats et capitaines qui foulent le pays. C'est un mot qui est très souvent employé. Fouler le pays.
Et oui, parce que dans Saint-Antonin cohabitent désormais catholiques et protestants. Et c'est à l'ensemble de la population qu'on fait payer cher l'écart de conduite, entre guillemets, des protestants.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas là prétexte à affrontement?
Ah, c'est un prétexte à affrontement. Par exemple, pour le logement des troupes. Parce que les soldats, il n'y avait pas de caserne. Ils étaient logés chez les particuliers. Il y avait des billets de logement, hein. Et alors, on envoyait 1, 2, 3, 4 soldats dans les maisons. Et bien entendu, à chaque fois qu'on faisait la répartition, on désignait quelqu'un pour faire le logement des troupes. Et les consuls catholiques disaient non, on n'en met pas chez les catholiques, il faut les mettre chez les protestants parce que si on en est là, c'est de votre faute. Alors voyez un peu ces querelles permanentes, cette haine entretenue parce que c'est de la faute aux protestants, si on a ça, c'est la faute aux protestants. Et c'est une vie impossible qui se menait là. Et en plus, le logement des troupes, il faut le comprendre, est redoutable et coûteux parce que les militaires, donc, logés pour, chez des particuliers, mais ils sont exigeants. On leur donne, quelqu'un le raconte dans un livre, dans l'histoire populaire du Quercy, on le trouve. On leur donne du poulet, non, ils veulent du bœuf. On leur donne du porc, ils veulent du mouton. Et si c'est pas comme ça, ils se lèvent, ils brutalisent les gens, ils battent même. Et il y a souvent ainsi des hôtes qui hébergent des soldats qui viennent se plaindre qu'ils ont été maltraités. Et le poids de ces garnisons deviendra de plus en plus lourd. En 1628 et 1629, quand les protestants de Montauban se seront emparés de Caussade, tout notre pays alors deviendra zone de combat et il faudra, nous, les Saint-Antoninois, l'ancienne ville protestante, il nous faudra fournir farine, pain, bois pour les et poudre pour les troupes royales qui assiègent Caussade. Ville protestante, quelle triste, c'est quand même lamentable, vous le comprenez, mais il faut payer. Et on est d'autant plus exigeant envers les consuls de Saint-Antonin quand on découvre que certains Saint-Antoninois ont quitté la ville et, nous dit le texte, se sont jetés dans Montauban pour prendre à nouveau le parti de Rouen, et cela malgré les serments de fidélité au roi prêtés en 1622, et renouvelé en 1627. La campagne est désolée par les courses des soldats, par les saisies de bétail. On se croirait revenu au temps des routiers.
Oui, monsieur Julien, les protestants de Montauban reprennent Caussade, et certains Saint-Antoninois veulent leur prêter main forte. Il y a donc encore, chez certains Saint-Antoninois, la farouche volonté de faire aboutir la cause protestante.
Ah oui.
Est-ce qu'avant de partir à Montauban, ils n'ont pas essayé de refaire basculer Saint-Antonin dans le camp protestant?
Oh, je ne le pense pas. Et il n'en est jamais fait mention. Et d'ailleurs, leur départ, quand on l'annonce au conseil de ville qu'il y a des habitants de Saint-Antonin qui se sont jetés dans Montauban, c'est une nouvelle qu'on apprend. Ils sont donc partis clandestinement. Un jour, ils ont quitté la ville, on ne les a plus revus. Mais on sait qu'ils sont plus là. Et un tel et un tel, et des notables. Et alors, évidemment, on ne peut pas dire que Saint-Antonin est redevenu protestant, pas du tout. Et ni que les protestants restaient fidèles à leur cause et essayaient de soulever Saint-Antonin. C'était impossible. Impossible. La cause était perdue ici. être les protestants, c'est aussi, et surtout à long terme, réintroduire et favoriser le développement du culte catholique. Tout comme l'avait fait Saint Louis, rappelons-nous, après la guerre des Albigeois, avec les Cordeliers, Louis XIII amène dans les fourgons de son armée des religieux mendiants, les Capucins, chargés de prêcher et de ramener dans le sein de l'Église catholique, apostolique et romaine les âmes égarées. On sait qu'ils ont été très efficaces dès le premier jour de leur entrée dans la ville, le 24 juin 1622, avec à leur tête le père Bernard. Dans les jours qui suivront, ce sont des centaines de conversions qui seront enregistrées. Comment expliquer cela? Comme toujours, il y a ceux qui volent au secours de la victoire. Comme toujours, il y a ceux que la défaite a désemparés et qui perdent confiance en leur foi. Mais il y a aussi, et il faut le dire, ceux qui restent fidèles et le resteront, quoi qu'il en coûte. Et puis, il y a ceux qui préfèrent, restant fidèles, aller vivre ailleurs, maintenant qu'ici, la cause est perdue. Certes, par ces lettres patentes de juillet 1622 dont nous avons parlé dans la dernière émission, datées de Castelnaudary, Louis XIII accorde aux protestants le droit de, je cite, « faire et pratiquer l'exercice libre de leur religion, ainsi que sous l'OFR par le passé, sans qu'ils y soient troublés, inquiétés ni molestés ». Nous l'avions vu ça. Mais il ajoute ceci. « Néanmoins, que le dit exercice se fera désormais en autre lieu que celui qu'est à présent leur temple, que nous avons destiné pour y célébrer la messe et servir à la religion catholique, attendu qu'il est bâti sur terre d'église et que les 10 habitants de la religion prétendue réformée ont aussi démoli celle de la dite ville de Saint-Antonin. »
Oui, monsieur Julien, le temple est bâti sur terre d'église, dit la lettre patente Louis XIII.
Oui.
Mais vous nous aviez dit, me semble, dans une précédente émission, que les protestants, pour bâtir leur temple, avaient acheté 5 maisons, je crois.
Oui, et nous avons la preuve qu'ils ont acheté de ces 5 maisons par des actes notariés passés devant le notaire Franck, justement, en 1614. Et là, il y a un abus de la part du roi, sans doute induit en erreur par les chanoines d'ici, et quand il dit que le temple est bâti sur terre d'église. Il y a simplement ceci. Parmi les 5 maisons qui ont été achetées à des particuliers, l'une était une maison qui servait une rente annuelle à ce qu'on appelait la chapellenie de Peyrolles. Je ne peux pas m'étendre, mais il y avait autrefois au sein de l'église de nombreuses fondations pieuses qu'on appelait des chapellenies et qui étaient des services et chapelles. Elles avaient une chapelle dans l'église, la chapellenie de Peyrolles avait sa chapelle et là il y avait un prêtre des servants. Le salaire de ce prêtre, enfin, oui, si on peut dire, les honoraires de ce prêtre étaient assurés par les revenus que des donateurs avaient faits à cette chapellenie. Elle s'appelle de Peyrolles parce que la ferme de Peyrolles, où habite Monsieur Ram, si je ne me trompe, eh bien, elle appartenait à cette chapellenie. Mais elle n'y appartenait pas, effectivement. Elle était simplement sujette à une rente annuelle. Et là, dans les 5 maisons achetées par les protestants, il y avait une maison qui servait une rente à la chapellenie de Peyrolles. Et alors, les consuls protestants vont engager un procès pendant des années, qu'ils gagneront d'ailleurs, dont le roi avait tort.
Oui, et quand les catholiques avaient repris possession de l'église abbatiale, vous nous avez expliqué que s'ils n'avaient pas pu le faire officiellement, clandestinement, la nuit, les protestants s'étaient opposés à ce retour des chanoines. Est-ce que maintenant ils acceptent facilement que leur temple serve de lieu de célébration aux offices catholiques?
Ah ben, ils l'acceptent mal, mais enfin, au fond de leur cœur, ils l'acceptent mal. Ils l'acceptent même pas du tout, seulement ils n'ont pas la puissance qu'ils avaient en 1602 quand ils se permettaient d'aller faire des ordures dans l'église des chanoines. Maintenant, eux, ils n'ont qu'à se taire. Mais enfin, ils se contenteront de ce qu'on leur donne, c'est-à-dire du poids public, hein, qui est rempli d'immondices et qu'il faut faire nettoyer. Et on fera le prêche là-dedans, je crois l'avoir dit dans la dernière émission, qu'on y trouvera même un chien crevé, tellement ce poids public ne servait plus à rien. Mais ça ne durera qu'un temps, ça. Et au bout de quelque temps, ils vont trouver une maison et ils vont la choisir la plus près de l'église possible. La plus près de l'église possible. Nous pensons que cette maison qu'ils ont choisie, c'est la maison actuelle, Jolibois. De façon à un peu gêner les catholiques, hein, par leurs cloches, par leurs sorties. Et alors ça fera l'objet d'un procès qui durera aussi des années et des années, et qu'engagera un prieur mage du chapitre particulièrement irritable, qui s'appelait Sébastien Desgrèzes. Bon, enfin, il faut dire aussi, toujours dans le domaine religieux, que profitant ainsi de l'affaiblissement religieux des protestants et des bonnes dispositions de Sa Majesté, les carmes reviennent, s'installent, les cordeliers reviennent, s'installent, comme ils peuvent d'ailleurs, en s'accommodant vaille que vaille des ruines de leur couvent. Le couvent des Carmes, je le rappelle, se trouvait là-bas, du côté de la maison de Madame Freys, à l'intérieur de la ville, cependant que le couvent des Cordeliers, lui, démoli aussi, se trouvait là où est Unico. Et nous y avons découvert, vous le savez sans doute, certains d'entre vous, une très belle clé de voûte de l'église des Cordeliers. Et les chanoines, et oui, ils ont plus grand-chose, oui. Alors, les chanoines, ils s'installent, mais de façon beaucoup plus confortable. Ils peuvent pas s'installer dans ce qui reste leur ancienne abbaye, dont j'ai dit tout à l'heure que c'était devenu une forteresse appelée le Réduit, où habite le gouverneur militaire. Alors, ils louent des maisons en ville, où ils habitent chez des particuliers. Ils vivent chez des bourgeois. Et les uns et les autres retrouvent peu à peu leurs biens et leurs privilèges, aidés en cela par les catholiques anciens, eux aussi, de retour.
Oui, Monsieur Julien, vous nous disiez qu'on avait donné aux protestants le poids public pour célébrer leur culte. C'est quand même bien exigu par rapport au beau temple qu'on vient de leur confisquer. Et oui. Est-ce qu'on a idée, sur les 2500 habitants qui restaient à Saint-Antonin, du nombre de protestants ?
Oui, je pense qu'il est resté très considérable. Très considérable, et que même s'il y a eu des centaines de conversions au début, très vite on s'est ressaisi au bout de quelques temps. Et en tout cas, un ouvrage écrit par, excusez-moi, je n'ai plus le prénom en mémoire maintenant, un ouvrage écrit par un nommé Fonvielle sur le Midi de la France, décrit pendant beaucoup de pages la ville de Saint-Antonin au XVIIe siècle. Et vers le milieu du XVIIe siècle, il nous dit que la ville ayant retrouvé sa prospérité, et près de 6000 habitants, il y avait 4000 protestants, 2000 catholiques. Bon, proportion des deux tiers. Je pense que tout de suite après le siège, c'est la même proportion qui va se maintenir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se satisfont du poids public. Ils font comme ils peuvent, hein. soumettre les protestants, c'est enfin réduire, et si possible annuler leur pouvoir politique au niveau local. Jusqu'alors, et malgré les dispositions de l'édit de Nantes, la majorité, sinon la totalité des consuls étaient protestants, sauf le sixième, traditionnellement, parce que c'était un paysan, et que chez les paysans, que ce soit du Causse d'Anglard, que ce soit du Causse de Servanac, que ce soit du Causse de Lacan, les paysans, ils étaient catholiques. Alors, il y avait toujours un catholique. Mais on tenait bien pas beaucoup compte de son avis. Les consuls élus à la Toussaint 1621 sont restés en place, nous l'avons dit, jusqu'en janvier, le 23 janvier 1623, sans doute parce que l'élection consulaire de 1622, de la Toussaint 1622, avait été annulée par le pouvoir royal. Le 23 janvier 1623 est élu, d'ordre du Conseil du Roi, un consulat mi-parti, comprenant 3 catholiques et 3 protestants. Et le premier consul est et sera toujours désormais un catholique. Toute velléité des protestants, bien qu'il reste longtemps encore largement majoritaire, pour reprendre ce pouvoir communal, sera vouée à l'échec. Il suffira que le procureur du roi ou le syndic catholique, parce qu'il y avait 2 syndics maintenant, comme il y avait 3 consuls et 3 consuls, il y a 2 trésoriers, un catholique et un protestant, un syndic catholique et un syndic protestant, toujours mis parti. Il suffira donc que le syndic catholique, surtout lui, qui est hargneux, il s'appelle Dubois, dénonce un élu comme factieux, fauteur de troubles, perturbateur, pour qu'immédiatement l'élection soit cassée par le Parlement et que soit mise en place, par un arrêt de ce même Parlement, un homme sûr, c'est-à-dire un catholique. L'époque est bien finie de l'autonomie communale dont nous avions parlé au Moyen-Âge.
Oui, monsieur Julien, 3 consuls catholiques, 3 consuls protestants et des consuls qui sont systématiquement en contradiction, je suppose. Est-ce que c'est possible, dans ces conditions-là, de gouverner Saint-Antonin?
Oui, on peut dire que la ville était ingouvernable. Et la meilleure preuve, nous la trouvons, justement, dans la reddition des comptes. Vous savez que, traditionnellement, les consuls étaient élus à la Toussaint, et que c'était à la Noël, avant la Noël, que les consuls vieux devaient rendre leurs comptes. Et pendant des siècles et des siècles, la remise des comptes par les anciens consuls s'est faite ainsi. Or, à partir de 1622, jusqu'à 1634 notamment, jamais les comptes n'ont été rendus à la Noël. Et vous comprenez pourquoi, par exemple, parce que nous avons la chance d'avoir, dans les archives communales, le compte rendu des comptes de 1623. Eh bien, savez-vous ce que nous avons ? Nous avons des comptes rendus par les consuls protestants et nous avons une note nous disant que le compte rendu des consuls catholiques a été envoyé à messieurs les conseillers du Parlement. Autrement dit, ils n'ont même pas pu s'entendre cette année-là, les 6 consuls, pour faire un compte rendu commun financier. Chacun a fait le sien. Alors, imaginez un peu les querelles qu'il a dû y avoir. Et ces comptes-là n'ont été rendus qu'en 1625. Et ils n'ont été arrêtés et approuvés qu'en 1627, 4 ans après. Alors je crois que ça suffit pour répondre à la question, n'est-ce pas Patrick?
Oui, et puis au sujet des comptes, il y a toujours cette rançon. Alors la rançon, on l'a payée à Louis XIII, ah oui, mais bah, en empruntant de l'argent, donc il faut rembourser cet argent.
Cette rançon sera payée à Louis XIII dans l'année 1625 seulement. Et on avait tardé jusque-là, mais on avait emprunté de l'argent, je l'ai déjà dit, je crois, et ce sont ces fameuses dettes au maréchal de Thémines, à Sully, le fils du grand Sully, à Madame de Pardaillan. Ce sont ces fameuses dettes énormes que l'on fera traîner pendant des années et des années. Et je ne suis pas encore assez avancé dans la lecture des comptes consulaires pour vous dire quand enfin on éteindra ces dettes.
Oui, et puis ces consuls doivent gouverner sans qu'il y ait une quelconque compréhension entre eux, ils doivent quand même gouverner Saint-Antonin. Et on suppose que la question de religion continue à poser problème, parce qu'il doit y avoir quand même un esprit de revanche à Saint-Antonin un peu.
Il y a toujours un esprit de revanche des uns et des autres, mais il y a un esprit de revanche qui ne se manifeste pas, c'est celui des protestants, parce qu'ils ont intérêt à ne pas trop se manifester. Mais par exemple, les consuls catholiques ne se gênent pas, je l'ai dit pour ce qui était des élections, je le dis pour des... Toutes les fois qu'il y a une affaire financière difficile, il ressort le même leitmotiv, si nous en sommes là, c'est de la faute à vous les protestants, et il faut faire des réparations, mais il faut faire des réparations parce que vous ne les avez pas faites avant, et c'est à vous vous de les payer. Alors ce sont des conflits permanents, c'est une cohabitation vraiment difficile, et il faut le comprendre, les haines et les rancunes accumulées depuis des années vont s'exhaler ainsi à chaque réunion, et à tout propos, chacun se défiant de l'autre, n'est-ce pas? Et on imagine mal comment ils ont pu cohabiter en supportant ces conditions de cohabitation difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Fera taire les griefs réciproques pendant les années noires de 1628 et 1629, alors que la guerre ravage à nouveau le pays entre troupes royales et garnisons de Montauban pendant le siège de Caussade. Et on les fera taire aussi devant l'annonce de la réapparition de la maladie. Les notaires nombreux suffisent à peine à enregistrer les testaments. C'est François Coudert qui, le 23 juillet 1628, rédige le sien en disant « Considérant le temps calamiteux où nous sommes, de troubles et de contagions, c'est Jean Pradigne, jeune brassier protestant, considérant le temps de guerre où nous sommes et qu'il est prêt à partir pour y aller, c'est Pierre Labarre, cordonnier protestant, désirant s'en aller en guerre pour le service du roi, c'est maître Pierre Tufou, prêtre de Lautrec, venu se réfugier ici, et qui teste aussi, quoiqu'en bonne santé, considérant le temps calamiteux des guerres où nous sommes, et la dite maladie continuelle, et oui, la maladie, la peste donc, en cette année 1628, rôde dans le pays alentour. Elle s'abattra sur notre ville le 31 juillet 1629.